Amis de Radio Occitanie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Vous savez ce que disait André Peyre de Mandiargue ? Il disait « L'intelligence de la poésie est répandue chez les Français autant ou quasiment que l'instinct maternel chez les poissons. » Voilà, donc nous allons essayer de démontrer, par-delà évidemment l'éternité, puisque André Peyre de Mandiargue nous a quittés depuis longtemps, nous allons démontrer donc que peut-être que nous n'avons pas l'instinct des poissons pour ce qui concerne l'instinct maternel des poissons, pour ce qui concerne donc la poésie, nous les Français. Mais c'est quand même symptomatique que quelqu'un comme lui, un grand écrivain, un grand poète, qui était quand même profondément dans l'âme du XXe siècle, ait pu dire ça. En tout cas, peut-être voyait-il ça aussi comme quelque chose de prophétique. Mais bon, nous n'allons pas, évidemment, nous attacher à ce commentaire aussi brutal soit-il. Mais il faut en tenir compte. La poésie reste malgré tout toujours même quelque chose de fragile. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler peut-être deux poètes, ça va dépendre du temps. Mais le premier, c'est Guillaume Decourt. Alors Guillaume Decourt, j'en ai déjà parlé ici, à Radio Occitanie, pour les publications antérieures que ce poète nous avait données. Donc, publication sur les dernières, c'était Lundi propre, qui a eu le prix Marc Jacob et le prix Lucette Moreau de l'Académie française pour ce recueil, donc Lundi propre, à la table ronde en 2023. Et puis, toujours à la table ronde, on avait parlé de lui pour son recueil Un temps de fête, c'était en 2024. Alors aujourd'hui, nous allons parler de lui, de Guillaume Decourt, pour son livre de poésie qui vient de paraître à la table ronde en 2026. Donc cette année, c'est tout récent. Alors qui est de Guillaume Decourt ? Guillaume Decourt, c'est un poète. Un poète qui est né en 1985. Donc ça le situe un petit peu dans la généalogie donc des poètes de notre siècle. Hein. Et il a passé son enfance, Guillaume Decourt, en Israël, en Allemagne et en Belgique. Donc vous voyez quand même l'expérience que cela peut provoquer chez un poète de vivre dans ces pays aussi différents que Israël, l'Allemagne ou la Belgique. Et puis, ensuite, il a vécu dans les monts du Forez et ensuite à Mayotte. Regardez le décalage, Mayotte, donc, et en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et aujourd'hui, Guillaume Decourt, il partage son temps entre Paris et Athènes, donc la Grèce. Hein. Donc vous voyez quand même cette expérience donc de cet auteur qui a pu se nourrir donc des cultures qu'il a traversé donc dans ces différents pays. Alors, à ce jour, il a publié déjà une douzaine de recueils. C'est quelqu'un d'important, je pense, Guillaume Decourt, et je pense qu'il faut en parler un peu plus que l'on ne fait. Et, bon, j'ai dit qu'il avait eu quand même le prix Marc Jacob, hein, qui est un grand prix, donc il est largement reconnu, ne serait-ce que par le prix Marc Jacob, et puis un prix de l'Académie française, le prix Lucette Moreau de l'Académie française pour ce fameux un temps de fête. Et donc il a publié une douzaine de recueils, parmi lesquels donc Un gratte-ciel des gratte-ciels, ça c'était aux éditions Lanskin en 2019. Il a publié À 80 km Monterey, c'était aux éditions Atalides en 1921, et Le Beau Jour de Christopher Graham, c'était toujours à Tenedies en 2023. Voilà. Donc, un poète qui a quand même une œuvre importante derrière lui. J'aurais bien aimé que ce poète ait un grand prix de poésie, par exemple de l'Académie des Jeux Floraux, c'était tout à fait... Parce que, bon, c'est un poète qui est... Alors, c'est pas un performeur, c'est pas un musicien, c'est pas un plasticien, c'est pas un transformiste, que sais-je maintenant, toute cette panoplie dont s'enveloppent souvent les poètes, les poètes de génération... jeune génération. Non, c'est un poète qui écrit des poèmes, tout simplement, et des livres de poésie. Et c'est peut-être ça, en définitive, avant tout, le poète, celui qui écrit des poèmes. Et son dernier livre de poésie, qui vient de paraître, donc, je vous disais, à la Table Ronde, aux éditions de la Table Ronde, s'appelle Harmonica, virgule, etc. Et il y a un exergue de ce recueil, une citation d'Ernest Hemingway, qui est la suivante. « Il avait en son cœur ce chant bizarre. » Donc nous allons écouter ce chant bizarre de Guillaume Delcourt. Alors, je précise que Guillaume Delcourt, je disais que vraiment c'était pour moi le poète idéal, à mon avis, du Grand Prix de poésie de l'Académie du Floraux. Pourquoi ? Parce qu'il est capable, les derniers recueils dont je vous ai parlé, celui qui a eu le prix Max Jacob ou celui qui a eu le prix de l'Académie française du 7 Moreau, là, qui s'appelait Lundi propre et un temps de fête, c'était évidemment des poèmes en vers libre. Mais là, Guillaume Delcourt, là, eh bien, il nous surprend quand même, parce qu'il va publier tout un livre de poèmes. Et un poème de 150 pages, hein, 150 pages de poèmes en vers classique, et en étant dans une modernité totale. C'est-à-dire qu'il n'y a là rien qui puisse nous ramener à une époque obsolète ou quelque chose d'une imitation vraiment d'un temps passé, non. Nous sommes dans la contemporanéité la plus normale et dans le classicisme de la langue. Donc, je pense que c'est à signaler, et il faut peut-être aussi mettre vraiment en relief le travail de Guillaume Delcourt. Il y avait William Cliff, le poète belge, hein, William Cliff, qui fait ça. Hein, qui écrit aussi des œuvres qui sont des œuvres très contemporaines, très modernes, et qui sont en vers classiques. Alors écoutons Guillaume Delcourt dans Harmonica, virgule, etc., aux éditions La Table Ronde. Picpus. Je marche vite et me dépêche sur le boulevard de Picpus. Je vais déposer à la crèche nos jumeaux, l'auxiliaire russe. Jolie, sévère, mais pas rêche, porte un mascara bleu de Prusse. Je marche vite et me dépêche sur le boulevard de Picpus. Ukraine, inflation, c'est la dèche. Je fredonne Charlie Mingus. Nos jumeaux rendront dans le bus toutes leur compote de pêche. Je marche vite et me dépêche. Voilà. Donc, il parle de sa vie ordinaire aussi, de Guillaume Delcourt, puisqu'il parle de ses jumeaux, hein, où il dit que les jumeaux rendront dans le bus toute leur compote de pêche. Hein. Ça arrive souvent, ça, les enfants qui vomissent. Voilà, donc un aperçu donc de l'écriture de ce recueil, donc qui effectivement tranche avec les autres recueils, mais qui démontre que Guillaume Delcourt est à l'aise dans tous les styles et qu'il possède vraiment au fond de lui toutes les arcanes de la maîtrise de la langue française. Marchand de tapis. Jusqu'à ce matin, je ne savais pas que boulevard de Picpus à Paris passait encore un marchand de tapis de Constantine, vous disant tout bas « Touche, touche, c'est moins cher que gratuit. Il n'y en a pas deux des comme ça, tissés presque entièrement au pays, et je peux te le faire à moitié prix. » Jusqu'à ce matin, on frappe à ma porte, j'ouvre surpris, djellaba, babouche, fez, cheveux gris, magnifique tapis, cadeau de choix, tu peux l'offrir à ta mère, il sera parfait sur son parquet point de Hongrie. Jusqu'à ce matin. Voilà donc des petites scènes de la vie ordinaire avec cette pointe d'humour hein, de Guillaume Decourt, qui en font des textes à la fois légers, agréables, mais aussi qui peuvent avoir aussi un deuxième sens. Décalage horaire. Je me souviens de notre premier rendez-vous sur une terrasse de l'île Saint-Louis. Soir du mois de juillet, il faisait assez doux. Tu avais pris un chocolat, puis un whisky. Ça m'avait semblé d'un grand raffinement, devant mon Coca-Cola et mon Iced Tea. J'ai 21 ans, et toi, 34 ans. Je me moquais de cette différence d'âge, ce n'était qu'un détail, vraiment rien d'important. Un tropique, un fuseau, un léger décalage, horaire, qui ne nous empêcherait pas d'être ensemble. Nous avons réussi le braquage sur la route à des milliers de kilomètres. Voilà. Donc vous voyez à quel point cette versification est une versification. Alors c'est très difficile hein, d'écrire comme ça. Il y a vraiment un travail sur la langue qui est très très important. Mais à quel point on est là, le iced tea qui rime avec whisky. Hein. On est là vraiment dans une écriture qui est une écriture vraiment moderne, gravement moderne, je dirais, et une écriture également qui obéit aux règles les plus classiques. Voilà. Et puis il parle de ce décalage horaire qui n'en est pas entre un couple qui a l'un à 20 ans, 21 ans, et l'autre 34 ans. Porcelaine. La femme nue dans la tasse de saké a disparu. Et l'homme aux sourcils arqués, au sexe en sabre, qu'il brandit pour l'attaquer. Les yeux mi-clos, il se cabre, on ne voit plus son chignon, son torse glabre. Tous deux accrus, dans la tasse de saké, se sont perdus au fond du ciel laqué. Voilà. Alors, là aussi, l'humour de Guillaume Decourt, qui part d'une scène courante de la vie. Vous allez au restaurant chinois, on vous offre le saké à la fin du repas, et on vous offre ce saké dans ces petits verres, où il y a un effet loupe, et où effectivement, il y a souvent des photographies ou des illustrations donc assez coquines, hein, érotiques, donc de femmes nues là. Et voilà. Et alors il dit la femme nue dans la tasse de saké a disparu parce que une fois que c'est le saké, donc c'est le liquide qui fait l'effet loupe, ce qui fait que lorsque on a bu le saké, eh bien on ne voit plus l'illustration qui est au fond de la tasse. Voilà. Voilà. Eh bien, vous voyez, la semaine dernière, on parlait avec le poète Georges Catalot de ce que la poésie n'avait pas de, de, d'objets limités que tout pouvait être l'objet du poème. Mais voilà, la tasse de saké dans un restaurant, lorsqu'elle se vide, peut être l'objet d'un poème pour celui qui a compris le sens et la portée, la force, la puissance de la langue. Horlogerie. Je porte une tag ER comme Ayrton Senna, plus élégante qu'une Rolex Daytona, plus moderne qu'une Breitling Navi Timer. Je regarde l'heure toutes les 5 minutes, pour le plaisir, même quand je marche sans but, et son beau cadran bleu me rappelle la mer. Après ma mort, il est possible que maman la vende aux enchères, à Drouot sûrement, avec mon stylo, mes carnets, mes manuscrits. Je te transmets son numéro de téléphone. Toutes les deux, vous êtes de grandes personnes. Tâchez de vous entendre sur la mise à prix. Alors, vous voyez, dans ces poèmes, ce que l'on arrive, et c'est ça quand même, le tour de force qui fait qu'il écrit d'une façon très moderne, c'est qu'on arrive presque à oublier la rime. Hein, voilà. Ce n'est plus donc ces versifications que l'on reçoit, par exemple, à l'Académie des Jeux Floraux, donc ces gens qui s'essaient à la poésie, qui écrivent comme au XIXe siècle, d'une façon purement versifiée. Non, lui, il versifie, mais la langue reste une langue d'aujourd'hui. Teinturier du bonheur. Nous habitons au-dessus des teinturiers du bonheur, un savoir-faire de père en fils, spécialiste de la robe de mariée, repassage à la main, accueil souriant, service impeccable, chemise sur cintre ou pliée. Grâce aux vapeurs qui embrument le plafonnier, nous ne nous chauffons pas l'hiver, même en janvier. Et les tambours du pressing à notre bénéfice, nous habitons au-dessus. Le propriétaire est un homme singulier. 50 ans, viril et toujours bien habillé, juif d'Afrique du Nord, peut-être de Tunis, cheveux très noirs, avec les temples qui blanchissent. Je crains que Vicky n'en soit tout émoustillée. Nous habitons en dessus. Odyssée. Dans un roman de mauvaise facture, mais qui me procure un plaisir certain, Harrison affirme que l'adultère est l'unique et dernière aventure possible pour l'homme contemporain. Il ne faut pas le prendre à la légère. Et je pense à Michel, notre voisin, parti dans l'archipel des Kerguelen, étudier les manchots et les pingouins, laissant 6 mois seul sa femme Hélène. Striptease. Il me faut dire que je fus déçu dans ce vieux club de striptease à Pigalle. J'y pénétrais au hasard d'une rue, minuit, l'heure me semblait idéale. Il n'y avait personne dans la salle, mis à part 3 hommes des Émirats, buvant du bourbon dans des verres sales, en prononçant les mots « nec plus ultra ». Une fille d'origine ukrainienne, au sexe recouvert d'un bandana, mimait une fellation sur la scène, tandis que je commandais un coca. La barmaid me fit savoir gentiment que, pour l'équivalent d'un plein d'essence. J'aurai le privilège d'une danse, d'un show privé dans ses appartements. Voilà. Donc là aussi, beaucoup d'humour, hein. Et puis, bon, certainement des scènes ordinaires de la vie nocturne de Paris, hein. Quelque part, le bar avait pour nom les Ginettes Armées. Il se trouvait au fond de la rue Quincampoix. C'était une amie qui m'y avait amené, mais en principe, je n'avais pas le droit. Nous y entrâmes, elle devant moi, derrière, et nous commandâmes deux vodkas au comptoir, à côté d'une femme en tenue militaire, certaine de m'avoir déjà vue quelque part. Elle invita bientôt mon amie à danser. J'allais dehors pour fumer une cigarette. De grands videurs étaient en train de converser. Le plus dur, disait l'un, ce n'est pas les bagarres. Mais quand je suis obligé d'aller aux toilettes et de les voir pisser debout à l'urinoir. Voilà. Donc, vous voyez à quel point vraiment on est là dans une écriture d'une modernité absolue et comment l'usage de ces rimes, donc de cette poésie classique, véritablement porte donc la langue française vraiment à son apogée de mystère et de magnificence quelque part pour décrire des scènes qui peuvent être des scènes triviales, voire des scènes peu remontantes, mais que la langue, elle, permet de pouvoir dessiner donc d'une façon élégante. Vancouver. Hier soir, je me suis dit que mon ami Spencer aurait très bien pu jouer dans Un monde parfait, le premier rôle tenu par Kevin Costner. Cela sans rien faire, avec son air détaché, conduisant une Oldsmobile Vista Cruiser, dormant dans des champs de maïs pour se cacher. Il ne pâlit jamais au nom de Vancouver, puisqu'il est né dans cette ville adolescent, chaussée d'All Star. Il a dû marcher de travers. Je l'imagine traîner les pieds en laissant son esprit flotter vers ce qu'on nomme l'ailleurs. Loin de la première station où l'on descend, pour vivre un peu là-bas, puisqu'il est dit qu'on meurt. Motel. Lorsque je suis fatigué de ma vie, je me promène dans Paris désert. Ma femme et mes enfants sont endormis. Je songe à tout ce que j'aimerais faire avant que je sois un vieux grabataire, avant qu'il ne reste plus d'ours polaire. Lorsque je suis fatigué de ma vie, je me promène dans Paris désert. Je songe à Robert Bichoun, en sursis, se réfugiant dans des motels précaires, se promenant dans des couloirs fleuris, méconnaissables, même pour sa mère. Lorsque je suis fatigué de ma vie. Voilà. Toujours ce ton qui a l'air désinvolte, hein, très léger, très avec cet humour aussi contenu. Hein. Nord. Je pense à mon ami qui n'est plus là. lui qui disait « La vie, c'est des histoires !» et considérer qu'on a toujours tort de ne pas faire l'amour tous les soirs. Nous nous étions rencontrés sur le port, c'était au mois de décembre, je crois. Il aura bien vécu, je vous le fais savoir, et voici comment il est mort. Une nuit, le ciel était plein d'étoiles, à la fenêtre tournée vers le nord, il a dit joyeusement « Je m'en vais ». Il a ri, puis hennit comme un cheval. Voilà, on voit que vraiment les rimes se font oublier dans ce poème. C'est exact, extraordinaire. Donc, quand même, l'habileté de l'usage de la langue, hein, pour pouvoir faire oublier cette redondance de la rime, etc. Elle est là, il y a toujours cette musique hein, dans le poème, mais elle n'a pas ce caractère ronronnant, désuet de la rime habituelle. Elle se fait presque oublier. Il y a la musique, mais on oublie que cette musique est une musique bien cadencée. Pastèque. La gitane releva la tête. Elle fumait une cigarette à l'arrière de la camionnette, étendue sur un lit de pastèque entre le feu rouge et le feu vert. C'était l'été, mais il avait plu. Elle était légèrement vêtue d'une jupe longue, d'un dos nu. Des caroubes parsemaient la rue. Un instant, nos regards se croisèrent. J'étais seul, attendant qu'on m'appelle. Je venais du quartier des Bordels. Des chats sauvages dans les poubelles, et je me souviens encore d'elle, sans raison, sous un soleil d'hiver. Alors, scène de la rue, scène onirique peut-être, hein, mais bon, tout le charme du poème, hein, qui peut effectivement s'attarder sur tout. Bulgarie. « Zé Tanka, vous êtes morte dimanche soir. Je n'ai jamais répondu à votre courriel. Vous aviez attendu longuement mon appel. Je me reproche d'être toujours en retard. Je vous avais promis que je viendrais vous voir. À Sofia, au mois d'août, vous étiez déjà faible. Zvetanka, vous êtes morte dimanche soir. Je n'ai jamais répondu à votre courriel. Vous me parlez de Dieu, de la vie de Grégoire, Palamas, des nymphéas de Monet, du ciel, que je ne sais pas plus que la vie des abeilles. Je me souviendrai longtemps de votre regard. Zetanka, vous êtes morte dimanche soir. Donc là, un poème plus grave. Hein. Apollo 11. Tu m'as appelé pour me dire que la lune était pleine comme sur l'île d'Ouvéa, alors que nous étions sortis de la case 1. Nuit pour regarder le ciel et, quand contrebas, des vers luisants nous faisaient signe de la tête, la lune semblait si proche cette nuit-là que nous aurions pu nous y rendre à bicyclette, à travers le Pacifique. Mon téléphone s'est éteint, j'ai allumé une cigarette, et songer au pensionnat tenu par des bonnes sœurs, dans lequel ma mère, à l'âge de 15 ans, comme des centaines de millions de personnes, avait assisté au premier débarquement Armstrong et Aldrin dans un vieux téléviseur. Mesdemoiselles, nous vivons un grand moment. Tout le réfectoire était en apesanteur. Voilà, donc 69, l'arrivée de l'homme sur la Lune. Périphérique. La serrurerie est un art, un métier comme on n'en fait plus, noble, exigeant. Il faut avoir le doigté, l'oreille absolue, écouter le cœur de la porte, me dit le taximan ému. Mais il fallait que je m'en sorte, et j'avais des dettes. J'ai dû plus ou moins liquider l'affaire. Toujours debout, jamais assis. Serrurier, j'étais fier. Taxi, honnêtement, à quoi ça sert? Voilà, on retrouve toujours cet humour. Hein. Météorite. Je tenais une petite météorite datant de 4 milliards d'années dans ma main. Si tout est un grand rêve étrange à l'heure dite, nous nous réveillerons, je ne pensais à rien, l'hôte affirmant que, sur le plan géologique, l'Atacama constituait un bon terrain pour trouver des fragments de matière cosmique, juste entre le plat principal et le dessert, je fis rouler dans ma paume mélancolique cet objet qui avait traversé l'atmosphère presque 1800 siècles auparavant. J'entamais mon Paris-Brest avec ma cuillère et je coupais court à tous mes raisonnements. Récital. Plus un pianiste prend de l'âge, plus il ralentit le tempo, il respecte les da capo, ne se lorgne plus du rivage, flâne dans les marais salants, il croyait au vif dans le lent, ce soir dans tel trait décisif, s'en remet au lent dans le vif. Il engage une japonaise pour qu'elle lui tourne les pages dans la fameuse suite anglaise devenue chemin de halage. Il n'accuse pas sa mémoire, dit que là, cela sert les nuances, digne d'un ramène en silence, sans même s'en apercevoir. Voilà. Là aussi, une façon quand même très, très amusante hein, de présenter donc ce pianiste en récital. Le grand sommeil. Je ne comprends rien au film policier. Pourquoi le commissaire s'en va-t-il sans parler à la femme de ménage? Et qu'y a-t-il donc de particulier derrière la toile du Caravage? L'intrigue est sans doute trop difficile pour un petit esprit comme le mien. Je sais que la fille du général s'est enfermée dans la salle de bain pour prendre un petit peu de gardénal. Signe distinctif, beauté pélagique, type années 50, aime les dimanches. Après la guerre, visage tragique, petite culotte de couleur blanche, achetée lors d'un court séjour à 7, vit près de l'hôtel des grandes écoles, fume de temps en temps des cigarettes, respecte plus ou moins le protocole, a beaucoup dormi, a beaucoup saigné, a tué de sang-froid une araignée. Affaire. je vois Lino Ventura dans l'armée des ombres. Il ressemble à mon père que nous attendions sur le quai l'hiver à la gare de Bonson. Épaules larges, manteau long et regard sombre. Il descendait du train, puis marchait lentement sous la neige, en penchant légèrement la tête. Il portait une valise en cuir sans roulette et ne nous apercevait qu'au dernier moment. Il avait mené ses affaires à Paris, logeant chez une certaine Françoise qui, d'après ce que j'avais compris à demi-mot, était une Espagnole ayant dû fuir Franco, un homme méchant dont tout le monde avait peur et que ma mère qualifiait de dictateur. Signe. Monsieur Ibrahim, je vous remercie de vous occuper de notre vieux père. J'ai le sentiment qu'il vous apprécie. Vous savez parler, mais aussi vous taire. Pour moi, c'est un signe de profondeur. Il ne mange plus, se laisse mourir, refuse qu'on l'emmène à l'hôpital. C'est mon choix, dit-il, avec un sourire. J'apprends que vous venez du Sénégal. Dans vos yeux, je crois voir de la douleur. Un poème quand même qui est plus qu'émouvant. Là aussi, une langue très simple, où les rimes se font oublier, mais elles sont là. C'est un texte très bien fait, très bien construit, et qui parle d'une scène qui est une scène maintenant familière à notre époque, celle des personnes âgées et dépendantes qui ont offert un auxiliaire de vie, et cet auxiliaire de vie, souvent, bien sûr, pour ne pas dire tout le temps, il vient d'autres pays. Là, c'est cet auxiliaire de vie s'appelle Ibrahim, et il vient du Sénégal. Et il y a quand même une dimension dramatique dans ce poème, d'abord par la prise de position du père, qui dit qu'il ne veut pas aller à l'hôpital, et qu'il préfère donc rester chez lui, ce qui est un choix. Ce choix va-t-il être possible maintenant, à nous, les baby-boomers, Et puis, il y a la profondeur aussi de cet Ibrahim qui vient du Sénégal, qui est l'auxiliaire de vie, qui permet à ce vieux père de pouvoir avoir cette dignité dans ces derniers moments de vie. Et il y a donc ce côté quand même tragique et en même temps très fraternel de ce que dans les yeux donc d'Ibrahim, eh bien, on devine la douleur. Alors cette douleur, c'est bien entendu la douleur aussi du père lui-même de voir la compassion qui est la fraternité. Et ce texte aussi est un appel à la fraternité. Donc vous voyez dans ces peu de lignes, mais aussi la douleur d'avoir perdu aussi son pays, d'être dans la douleur de l'exil aussi. Il y a tout ça dans ce petit poème signe. Et c'est ça, ceux qui arrivent à écrire ça, Guillaume de Cour, ce sont de grands poètes, et il faut le dire. Et j'espère que Guillaume de Cour sera remarqué, louangé, enfin il a été quand même, oui, mais il faut vraiment qu'on continue à lire Guillaume de Cour et à dire vraiment que c'est un poète important du XXIe siècle. Jérusalem, 1987. Souvenez-vous, quand je vous ai parlé de Guillaume de Cour, je vous ai dit qu'il a passé son enfance en Israël. Hein ? Il est né en 1985, et là, il parle de Jérusalem en 1987. Il avait 2 ans, donc. Tous les matins, je prends mon café dans une tasse palestinienne. Je m'en vais assez loin, me reviennent notre maison, Myriam qui fait des falafels, mûres, terre de sienne, sur une photographie ancienne. Tous les matins, je prends mon café dans une tasse palestinienne. De la première intifada, des jeux de pierre entre les persiennes, la faïence est un peu fissurée, et se lance qu'il faut que je tienne. Tous les matins, je prends mon café. Ah, un poème d'une grande simplicité, qui dit beaucoup de choses aussi. Hein. La tasse palestinienne, il y a là vraiment, là aussi, on sent une inquiétude, hein, parce que bon, la tasse se fissure, hein, la faïence est un peu fissurée, mais il y a cette fraternité aussi, puisque la tasse qu'il boit à Jérusalem, hein, cette tasse-là, elle est palestinienne. Cafetière. De toutes ces vies que j'aurais voulu mener, il me fallut n'en garder qu'une. Je m'embarque. À bord de la quarantaine, avec toi, ce n'est pas une voile, mais du linge que j'étarque. Culotte petit bateau et collant de danse, elle ne laisse pas de sillage la barque, que le moine Manzei compare à l'existence. Cafetière pleine, début du mois d'avril, tu es en retard et pourtant tu me devances. Je ne suis pas capable de changer les piles de Pierre et le Loup et de White Side Story, ami de l'idiot du village, du débile. Je bégaye, le monde est beau, tu me souris. Voilà. Bon, là, il parle de lui, hein, il a la quarantaine, effectivement. Il arrive à 40 ans, Guillaume de Cour, et donc, il dit, à bord de la quarantaine, hein, s'il s'embarque, donc, à bord de la quarantaine, et il s'embarque avec toi. Hein, c'est pas une voile, mais du linge. Voilà. Baiser. La grande Copenhagen City Herald Studio recommande environ 6 baisers par semaine, un jour sur deux, pas plus de 3 le samedi, constituerait une bonne règle d'hygiène. Les dernières études danoises sont claires. Un baiser prolonge l'espérance de vie d'une minute et 30 secondes de l'artère marginal et l'oreillette en bénéficient, les statistiques prouvent que 30 baisers par mois est un chiffre qui reste raisonnable. Au-delà, le rythme cardiaque n'est plus stable, les chercheurs disent de ne pas en abuser. On trouve l'humour, la légèreté, l'humour de Guillaume de Cour. Arrière-boutique. Il faudrait sans doute se ménager une arrière-boutique tout à soi, où personne ne vient nous déranger. Une chambre de bonne sous les toits, une hutte perdue dans le Yukon, avec un peu de viande et de tabac. Dans ma tête, un harmonica résonne. Loin de l'appareil des paparazzi, pas le moindre con, pas la moindre conne. La rivière et le lac pour courtoisie. J'y couperai du bois sans mise en scène, ne ferai pas lire ce que j'écris, ne prendrai probablement pas la peine d'écrire la moindre chose d'ailleurs. Bien trop occupé à chasser le renne, à monter ma ligne, à placer le leur. Roi. je n'aurais pas tenu compte de Baudelaire. D'une main pure, j'ai ouvert Le Parisien. Sans aucun dégoût, c'était dimanche matin. Seul avec moi-même, bien assis au comptoir, je me souvenais d'un dimanche après la guerre. Songeais à l'Angola, buvais mon café noir, la queue s'allongeait devant la boulangerie. À midi, tout le monde tirerait les rois. Pages des sports, interviews et photographies. Un grand marin, partant de Brest en solitaire, dit qu'après le pot au noir, on risque sa vie, que le départ est dur quand on vient d'être père, que sa femme a peur, qu'il faut compter sur la chance, qu'une fois encore, le cap de bonne espérance et le cap orne. L'ambiance est très particulière. Embarcadère. J'entends par hasard un blues de John Lee Hooker, dont le titre convient à notre situation. I need some money. Nous le connaissons par cœur. Je fais une tentative de traduction qui se veut efficace. J'ai besoin d'argent. Duchamp disait qu'il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a pas de problème. Un aimant retient Frida Kahlo sur notre frigidaire. Tu me dis que je suis beau et intelligent. Donnons-nous rendez-vous devant la Marcadère. Partons dans cette île où je vivais à 20 ans. On y mange des brochettes assis par terre. On y prend du plaisir à perdre tout son temps. Album. Mais quelle idée de flâner par 0 degré dans les allées désertes du Père Lachaise. Je ne crois pas plus à la lutte qu'au progrès, pense un jeune homme dans la mousson mahoraise. Je l'entends, c'est moi, j'ai le double son âge. Par élégance, il vaudrait mieux que je me taise. J'ai 2 jumeaux. Qui sont des animaux sauvages. Petit à petit, je me suis civilisé. Dans ma tête, je feuillette un album d'images. Passé, présent, futur ne sont pas divisés. Je ne suis jamais heureux dans les cimetières. Toi, tu y prends plaisir comme dans un musée. Ton caveau de famille est tout près de la mer. L'idée d'y reposer te rend calme et sereine. À moi, qui ne possède rien, tu m'as offert une place, avez-vous? Mais ce n'est pas la peine. Nous nous sommes, je crois, beaucoup trop dit « je t'aime » que nos enfants jettent mes cendres dans la Seine, qu'ils deviennent enfin complètement eux-mêmes. Et nous allons, voilà, encore poursuivre un petit peu. Donc, voyez, alors, c'est beau ce texte, album, hein, où il parle effectivement de ces gens qui se promènent, et ça peut être le Père Lachaise, c'est aussi un musée. Hein, c'est un musée, on peut se promener au Père Lachaise. Bon, moi, je l'ai fait, ça. Aller à Paris et hanter les allées du Père Lachaise, parce qu'il y a toute une histoire qui remonte, là, quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des cimetières comme ça, qui sont des musées. Puis il y a des cimetières aussi qui sont placés dans des lieux magnifiques où il y a une sérénité. Voilà. Il parle aussi de ses jumeaux, hein, donc il alimente dans sa poésie, ses poèmes. La poésie s'alimente de tout et en particulier, bien entendu, de ce que l'on vit, de ce que vit donc Guillaume de Cour. Nous allons aller un peu plus loin dans ce livre, hein, qui est un livre de plus de 150 pages, hein, Et alors, il parle souvent aussi des percussions, de la musique, des choses triviales. Le téléphone, c'est par exemple, voilà, téléphone. Hein, moi qui n'ai pas de portable, je vais dire ça justement, tiens. Téléphone. J'ai un téléphone portable qui date de l'URSS. Un vieux clapet indémodable, de vraies touches pour SMS, une option morose SOS, une lampe torche du diable, digne d'un SBD, dauntless, je reste toujours injoignable. C'est un magnifique appareil d'époque, avec interrupteur, robuste comme un levasseur. Il donne branché sur secteur, des accointances supérieures, et tout en vous brûlant l'oreille, impose un silence maïdé à tous vos interlocuteurs. Voilà. Voilà. Alors bon, j'ai lu ça avec beaucoup de avec beaucoup d'ironie et beaucoup de plaisir, parce que moi aussi je n'ai pas de je n'ai pas de portable, lui en a un qui semble être une antiquité, hein. Et il y a aussi effectivement dans ce poème qui se veut comique, hein, ironique, dans cette ironie comique donc de ce poème, il y a aussi en filigrane, il y a tout ce que l'usage intensif donc du portable bouleverse notre société, nos façons de vivre, et quelquefois quand même pas toujours dans le très bon sens du terme. Et pour ceux qui, comme moi, circulent en vélo, combien de fois je suis obligé de rappeler les piétons qui vous foncent dessus bravement parce qu'ils ont les yeux rivés sur le portable. Guillaume de Cour, Monsieur le Prince. Notre baiser dans le hall de l'hôtel Stella deviendrait presque une tradition. 13h, restaurant japonais tenu par des Chinois. Mon tori katsu me met d'excellente humeur. Le mot tiramisu signifie, selon toi, tire-moi vers le haut. Sans doute aurais-je peur d'un dessert qu'on nomme tire-moi vers le bas. Une fois seulement dans ma vie, je fus sous. Un jour, peut-être, je t'expliquerai pourquoi. Je ne bois pas d'alcool. Enfant, j'aimais Picsou. Et je remplissais la baignoire de centimes. Comme s'il s'agissait de pièces d'or, j'avoue, que je n'imaginais en faire une piscine. Voilà. Bon. Alors, il y a toujours cet humour, hein. Et en même temps, des scènes de la vie ordinaire qui peuplent la poésie, et c'est ça peut-être être poète, c'est de la vie ordinaire en voir le côté, peut-être, le côté malgré tout insolite, le côté poétique, c'est ça certainement, hein, la poésie. Et être poète, avoir ce regard sur les choses les plus triviales, en faire des poèmes comme ça, et en plus avoir grâce à la langue, à la maîtrise de la langue, en faire une œuvre d'art. À lire absolument Guillaume de Cour, harmonica, etc., poésie, aux éditions La Table Ronde, très beau livre, qui vous coûtera 17 euros. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Citanio, et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.